Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Tatiana Zalus-Mielinski. Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Salut Jacques.
Et par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Pour notre discussion ce mois-ci, nous commencerons par revenir sur deux films présentés à Cannes, mais dont nous n'avions pas parlé en mai et qui sont sortis récemment sur nos écrans. The Homesman, d'abord, de Tommy Lee Jones, qui faisait partie de la sélection officielle, et Bird People, de Pascal Ferrand, qui était présenté à un certain regard. Puis nous enchaînerons sur le film chinois couronné au dernier festival de Berlin, donc en février, Black Coal, de Diao Yinan. Le point commun de ces trois films, qui sont par ailleurs très différents, est que leurs réalisateurs ont fait relativement très peu de films. En fait, ces trois réalisateurs ont fait en tout 9 longs métrages, y compris ces trois derniers, alors que souvent nous parlons de réalisateurs qui en ont fait 10, 20 ou 30. Et avant de terminer, comme d'habitude par quelques coups de cœur, nous consacrerons aussi quelques minutes, ce sera une innovation, à discuter du phénomène « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» en nous interrogeant sur ce qui peut expliquer l'extraordinaire succès de cette comédie. Mais commençons par The Homesman. C'est le deuxième film de Tommy Lee Jones en tant que réalisateur, après Trois enterrements qui étaient sortis en 2005. Tommy Lee Jones est en effet beaucoup plus connu comme acteur que comme réalisateur. Bon, il a joué dans de très nombreux films, Men in Black, No Country for Old Men, plus récemment dans La Brume électrique ou dans le personnage de Thaddeus Stevens dans le Lincoln de Spielberg. Donc c'est d'abord un acteur, mais il est aussi réalisateur. Il est né au Texas, il aime les grands espaces des westerns, il possède son propre ranch, il est un cavalier émérite, donc vous comprendrez qu'il est assez fasciné par le western. Et Trois enterrements, qui était une sorte de western contemporain, était un film très réussi qui a connu un grand succès. Donc on attendait beaucoup de son nouveau film, 9 ans après le premier. Il est inspiré de manière d'ailleurs très fidèle du roman éponyme de Glennon Swarthout. Il se situe au milieu du 19e siècle aux États-Unis, dans ce qui est alors la conquête de l'Ouest, mais un Ouest encore très proche de la côte Est, puisqu'il se passe dans le Nebraska. Alors Jean, est-ce un vrai western ?
Oui, c'est un vrai western, même si effectivement il se passe en 1854, soit bien avant la plupart des westerns classiques. Le film démarre dans le territoire du Nebraska, comme tu l'as dit, qui n'est pas encore un État fédéral, sur une scène inhabituelle, celle d'une femme en train de labourer. Il s'agit de Mary B. Cuddy, et on la voit juste après, redevenue parfaite femme d'intérieur, préparant un repas pour un voisin qu'elle demande en mariage. Mais celui-ci fuit épouvanté par la rudesse de la demoiselle. La vie n'est pas facile dans ce coin sauvage des États-Unis, et trois femmes en ont perdu la raison. Famine, mort d'enfants, maltraitance des maris. Le pasteur décide de renvoyer ces trois femmes vers la civilisation pour qu'on les soigne. Mary B. se charge de ce long et périlleux voyage de 5 semaines vers l'Est jusqu'en Iowa. Or, juste avant de partir, elle sauve de la pendaison un pauvre bougre, déserteur de l'armée, qui se fait appeler George Briggs et qu'interprète le réalisateur Tommy Lee Jones. Commence alors un long périple d'ouest en est, c'est-à-dire dans le sens contraire des westerns classiques, avec des trois folles qui sont enfermées dans un chariot conduit par Mary B. et George Briggs, deux personnages très dissemblables. L'une est charitable et vaillante, l'autre retors et intéressée.
Mais alors, qui des deux est le Homesman ?
Alors, Homesman, c'est un néologisme qui signifie « l'homme qui ramène à la maison ». En choisissant ce titre, le réalisateur a mis l'accent sur le rôle de l'homme par rapport à celui de la femme. Mais dans le film, qui est vraiment le héros ? Elle ou lui, on peut hésiter. Dans la première partie, Mary B. est seule. Ensuite, les deux personnages conduisent ensemble le convoi. Et dans la dernière partie, c'est Briggs qui occupe le devant de la scène.
Et alors, ce long voyage, il se passe comment ?
Eh bien, il se passe très bien aux yeux des spectateurs. Tout au long du chemin, dans les magnifiques paysages du Nebraska, ils font des rencontres étonnantes, comme celle des Indiens, lesquels ne sont ni des sauvages, comme dans les premiers westerns, ni des pseudo-écolos, comme dans les westerns modernes, mais simplement de pauvres bougres qui cherchent juste à survivre. Un autre morceau de bravoure, surréaliste et époustouflant, est celui du Grand Hôtel Bleu. Ce bel édifice est situé au milieu de nulle part, et ses propriétaires, qui sont habillés sur leur 31, attendent l'arrivée de 16 investisseurs. On voit la modernité. La venue de Briggs et de son convoi tombe bien mal, et on les renvoie comme des malpropres. Briggs va alors se venger en brûlant l'hôtel au cours d'un raid dont la furie rappelle celle de Peckinpah. Au-delà de l'action d'une grande violence, il y a la relation savoureuse qui s'installe entre Marie et son compagnon. Peu à peu, ces deux-là s'apprivoisent au point qu'un rapprochement paraît possible. C'est alors, aux trois quarts du récit, que survient un coup de théâtre qui a dérouté plus d'un spectateur, puisqu'à partir de ce moment, Briggs va être seul pour accomplir la tâche d'amener ses passagères à bon port. L'arrivée dans la ville, le passage du Missouri en bac, l'apparition de la femme pasteur, joliment jouée par Meryl Streep, tout cela nous semble bien étrange après les 5 semaines de lutte dans la nature sauvage. Mais Briggs n'est vraiment pas fait pour la vie civilisée. Il perd son argent, se saoule, et on a droit à une très grande dernière scène de nuit où Briggs retraverse le bac en chantant pour retrouver l'Ouest auquel il appartient. Et quel comédien ! Femme forte et indépendante à mal d'amour, Hilary Swank, qui interprète Mary B. Cuddy, est d'une justesse absolue, tandis que Tommy Lee Jones livre une version à la limite du burlesque du personnage du vieux bourru qui joue depuis tant d'années. Ce couple improbable mais talentueux, 3 Oscars à eux deux, nous offre une romance singulière, pleine d'émotions contenues, qui prennent à la gorge lorsque s'achève la projection.
Oui, moi c'est un film que j'ai bien aimé. Tu disais d'un western atypique, qu'on pourrait presque parler d'un anti-western en fait, parce qu'on a tous les codes du western, mais les thèmes sont renversés. Le voyage se fait en fait d'ouest en est, des territoires vers la civilisation. Les femmes qui sont dans le western en général des personnages annexes, ce sont ici finalement les héroïnes. Mais à l'opposé aussi des westerns classiques où on les recherche, elles sont repoussées, on les renvoie dans leur famille, quoi. Et puis les deux héros sont plutôt des anti-héros. Il n'y a pas de vraie rédemption pour George. Et puis Mary B, la femme forte, finit par craquer. Donc on est dans les thèmes du western, mais franchement retourné, quoi.
Oui, c'est bien ça qui est intéressant justement dans ce western, hein, que j'ai beaucoup aimé moi personnellement.
Alors Tatiana, je crois que toi t'as pas aimé. Alors dis-nous pourquoi.
Attendez, j'aime beaucoup Tommy Lee Jones en tant que comédien et pour sa première réalisation, Trois enterrements, qui est un film vraiment réussi. Alors vous vous rendez compte, un western réalisé par Tommy Lee Jones consacré aux femmes dans l'Ouest. Car il y en avait marre que ce soit toujours les hommes qui aient le beau rôle et que les femmes ne soient que défigurantes des prostituées ou de jolies godiches se sacrifiant pour leurs héros. J'étais donc allée le cœur en fête à la projection de Homesman, car elles étaient courageuses et pleines d'abnégation, ces pionnières partant vers l'inconnu, à l'ouest de nulle part, dans des conditions horriblement dures pour soutenir leurs hommes et servir leur pays.
Bah, mais...
Alors, je les ai vues...
Donc, jusque-là, tu aimes.
Alors, je les ai vues, ces femmes. Trois folles, rien que dans un seul village. Longs cheveux gras, bave aux lèvres, poussant des hurlements hystériques. Et Mary B, la courageuse Marie, affrontant tous les dangers pour reconduire ses malheureuses à l'Est, dans leur famille, où elles pourraient le soigner. Oui, parlons de Mary B, qui se suicide à la moitié d'un parcours sans faute. Victime de quoi ? Tommy Lee Jones, monsieur Tommy Lee Jones. Encore une pauvre fille, victime de ses hormones.
Alors, Jean-Michel...
Attendez, alors. Et enfin, la pire de toutes, la rigide femme du pasteur, Meryl Streep, enfin, interprétée par, qui n'a pas une parole de réconfort, pas un geste de tendresse pour les pauvres folles et demande à Tommy Lee Jones, pardon, à George Briggs, de s'occuper d'elle et de les installer en randonnion sur la banquette de son douillet salon. Je suis sortie du film en colère, car en plus, le réalisateur nous a imposé une scène d'horreur qui me hante encore après des semaines, je ne veux pas en parler. Oui, j'étais en colère, et je n'avais qu'une envie, voir un film consacré à Calamity Jane.
Ah... Mais je sais pas, je trouve que tu es un peu dur parce que... Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, moi je vais mettre, non pas tout le monde d'accord, mais enfin je vais être un petit peu au centre, comme je suis souvent. C'est un film qui est très bien fait. Tommy Lee Jones, acteur, fait merveille comme à l'accoutumée, et que le passé de George Briggs soit plus que douteux ne change rien à l'affaire, et on l'aime. C'est un paladin bourru, je reprends l'adjectif de Jean, mais généreux. Et Mary B, un gratte vierge frustré, assoiffé d'amour et de respectabilité, lui sert de repoussoir. Certes, la question du statut de la folie dans l'Amérique des pionniers n'est pas le propos du film, et les caractères sont taillés à coups de serpe, mais sans trop de finesse, le scénario fonctionne, et les péripéties s'enchaînent pour entretenir l'intérêt du spectateur. Pour un film qui est pour moi moins brillant et moins original que les Trois enterrements de Melquiades Estrada, mais confirme le talent de Tommy Lee Jones, réalisateur. Au total, je dirais avec Racine que ce film ne mérite ni cet excès d'honneur, Jean, ni cette indignité, Tatiana.
Oui, non, mais je suis assez d'accord avec toi que peut-être il n'a pas le brio de Trois enterrements.
Ça, c'est vrai. Là, je suis absolument d'accord. Mais ça reste quand même un western intéressant.
Et c'est un film aussi qui est plus noir, effectivement, que Trois enterrements, où il y avait une vraie rédemption du héros ou du anti-héros, quoi. Bon, nous passons à Bird People. Et je dirais, comme le héros de Bird People, nous franchissons l'Atlantique. Et avant d'atteindre la Chine pour notre troisième film, nous faisons escale en France. Et nous faisons escale plus précisément à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc pour le nouveau film de Pascal Ferrand, Bird People. Là aussi c'était un film très attendu, car Pascal Ferrand n'est pas une réalisatrice prolifique. Son premier long métrage, Petits arrangements avec les morts, est sorti en 1994. Elle a reçu le prix, et a reçu d'ailleurs le prix de la Caméra d'Or à Cannes. Suit L'âge des possibles en 1996 et L'été de Châtelet en 2006, qui lui est un grand succès critique et qui rafle 5 Césars. Donc seulement 4 longs métrages en 20 ans, mais 4 films remarqués et remarquables, un cinéma exigeant. Bird People est dans cette lignée, c'est à la fois un film très original, il est ancré dans le réel et il est aussi en même temps un film qui largue les amarres, qui s'échappe de la réalité pour toucher un onirisme complet. Alors, Tatiana, que veut dire ce titre, Bird People ?
Bird People, on pourrait le traduire par les gens de l'oiseau ou les gens ou oiseaux. Donc, ça nous situe tout de suite le film qui nous envoie dans les airs de façon réelle ou métaphorique. D'ailleurs, la musique choisie par Pascal Ferrand file la métaphore puisqu'il s'agit de Space Oddity de David Bowie, une histoire de voyage dans l'espace plutôt mouvementée d'un certain Major Tom. Bon, on peut pas aborder un film de Pascal Ferrand comme un film ordinaire. Il faut le voir sans a priori. Bird People est-il un film réaliste, une fable, une métaphore poétique ? Ben, je crois que c'est tous en même temps. Le film commence par des scènes de foule en vue aérienne, puis dans le RER. Chacun tente de se créer une bulle d'intimité plongée dans son ordinateur, son iPod ou son smartphone. Un des thèmes de Bird People est donné, celui de solitude mitoyenne dans un monde frénétique alors pourtant de la prolifération des connexions. Puis le film zoome sur deux personnages, illustration du thème de départ. Gary, interprété par Josh Charles, est cadre supérieur d'une firme internationale. Dans sa chambre de l'hôtel Hilton, qui donne directement sur les pistes de l'aéroport de Roissy, il est en transit d'un vol matinal pour Dubaï. Après une nuit agitée, il se retrouve en total burn-out. Retranché dans sa chambre, il laisse partir son avion et prolonge son séjour à l'hôtel pour commencer à détricoter brin par brin les mailles du carcan qu'a été sa vie jusque-là.
Mais oui, la première partie est effectivement centrée sur Gary, mais il y a un autre personnage principal dans le film.
Oui, un personnage très attachant, très touchant, Audrey, interprétée par Anaïs de Moustier. Elle travaille comme femme de chambre occasionnelle dans ce même hôtel pour pouvoir payer ses études. Son travail est fatigant, fait d'une succession de gestes répétitifs et ennuyeux. Solitaire aussi, car les occupants sont absents quand elle investit les chambres pour les nettoyer. Personne ne lui parle, elle est comme invisible, comme souvent le personnel de service. À l'inverse de Gary et du trop-plein de sa vie, l'univers d'Audrey pourrait être le trop-peu et l'ennui. Mais elle ne s'ennuie pas. Petit personnage tout en discrétion et en malice, elle est curieuse des autres et jette un regard curieux et amusé sur ce qui l'entoure. Gary et Audrey, s'ils ne font que se croiser, ont un point commun. L'intérêt qu'à un certain moment ils manifestent lorsqu'ils découvrent un minuscule moineau vivant tranquillement sa vie dans l'immensité vibrionnante et impersonnelle de l'hôtel et de l'aéroport. Pour Gary, maintenant apaisé, en route pour une nouvelle vie, c'est une image gracieuse qui le fait sourire et qui montre qu'il s'ouvre au monde. Pour Audrey, c'est un véritable déclic. Probablement, comme beaucoup d'entre nous, a-t-elle rêvé de voler, d'atteindre la totale liberté.
Et alors là, on quitte complètement la réalité, on décolle dans le rêve.
Ah oui, autant les deux premiers de Bird People étaient ancrés dans la réalité, autant dans cette troisième partie du film, puisqu'il y a eu deux premières, Gary, Audrey, il est demandé au spectateur de renoncer à la logique et de se laisser porter par le plaisir de l'âge. Est-ce une échappée onirique d'Audrey évanouie, une escapade dans le surnaturel ou la métaphore de la conquête de la liberté ? Ne boudons pas notre plaisir. La grâce touche le film de Pascal Ferrand. Outre les exploits des vues aériennes nocturnes de l'aéroport et de la ville, cela nous offre un des plus beaux moments du film. Akira, un aquarelliste japonais client de l'hôtel, perçoit le monde environnant avec les yeux et l'âme d'un artiste. Il est en communication non-verbale avec toute forme vivante, ce qui lui permet d'obtenir les plus beaux portraits de notre moineau, posant pour lui, étirant ses ailes, ou arrêté en vol stationnaire en face de lui. À la fin du film, Audrey, redescendue sur Terre, pieds nus tel Cendrillon, croise Gary tractant sa valise à roulettes. Pour lui, Audrey est devenue visible et il lui sourit, puis il s'éloigne en route vers son futur. Audrey prend l'initiative de s'adresser à lui. « Monsieur, y aura-t-il une suite à la poignée de main qu'ils échangent ? Cela n'a guère d'importance. » Pourtant, comme Pascal Ferrand nous a appris dans son film à décrypter les signes, on peut se poser des questions sur ses intentions en nommant ses personnages. Audrey, Gary, serait-ce Gary Cooper, Audrey Bourne, comme dans Ariane, le film de Billy Wilder.
Ah, grande question. Alors, Jean-Michel.
Oui, bah vas-y Jean-Michel.
Oui. Moi, je suis plus réservé. Je dis que c'est une curieuse chose que ce film, que sa réalisatrice a lancé comme une bouteille à la mer en recommandant d'une voix émue aux spectateurs lors de la première à Cannes, d'en prendre bien soin. Dans la première partie, le personnage de Gary m'émeut par son désarroi. Il est un enfant du XXe siècle finissant. Pour lui, tout fout le camp, son couple, son travail, son rapport aux autres. Il n'en peut plus, il veut fuir toutes ses contraintes et ses comportements convenus. Rompre les amarres, en somme. Je sens moins Audrey, qui travaille pour payer ses études et va percevoir, elle aussi, l'inanité de son mode de vie. Ces deux êtres qui traversent au même moment, au même endroit, un même passage à vide pour vivre une brève rencontre sans lendemain à la fin du film, sont une belle idée, je le reconnais, qui pouvait promettre un film attachant. Pour moi, il n'en est rien, je le regrette, et je me demande pourquoi, parce que j'avais envie d'aimer ce film, longuement porté par Pascal Ferrand. La deuxième partie, en effet, bascule dans un fantastique très particulier puisqu'il est limité à ce qui est probablement un rêve d'Audrey qui trouve dans sa transformation en un moineau une façon d'échapper à sa pesante condition terrestre en prenant le recul nécessaire pour apercevoir et critiquer l'environnement dans lequel elle était engluée avant de revenir à elle comme la belle au bois dormant. Pour moi, cette deuxième partie, à la manière d'un conte, ne fonctionne pas vraiment. Malgré une seconde vision du film, j'ai fait tous les efforts possibles pour essayer d'adhérer à cette deuxième partie. J'y suis pas vraiment arrivé.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une rupture vraiment brutale entre la première et la deuxième partie. La première est très réaliste et puis on bascule complètement. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer. Jean, tu fais partie de ceux qui ont aimé ou pas aimé?
Assez curieusement, je fais partie des deux.
Oui.
C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu ce film, je ne l'ai pas aimé. J'en suis sorti énervé parce que les scènes de RER au départ, ça me rappelait trop les scènes parisiennes connues. Ça m'a un peu agacé. Et après, les scènes oniriques avec ce vol autour de Roissy, on voit Roissy, ça m'a... Il y en a un peu trop.
C'est long.
Il y en a un peu trop. Et donc, je suis sorti pas très content de ce film. Et puis, assez curieusement, comme ça arrive des fois au cinéma, en y réfléchissant, parce que il m'a marqué quand même.
Ouais.
En y réfléchissant, j'ai vu apparaître des choses de plus en plus positives. Et maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est de le revoir. Pour savoir si je l'ai aimé ou pas aimé. Voilà.
Ah, mais c'est un fait que la deuxième partie ne répond pas du tout à ce qu'on attend. Finalement, on voit se construire, on a l'impression qu'on va avoir une romance, hein, ou quelque chose qui va se passer entre les deux. Et puis, non. Ou il y a un embryon à la fin, mais qui reste très hypothétique.
Oui, ça sera un peu bizarre.
Et cette partie donc très longue des moineaux, ça doit durer quand même 45 minutes. Bon, c'est vrai qu'elle aurait sans doute pu être un peu plus courte. Il y a des passages absolument magnifiques quand le moineau volette de chambre en chambre à l'hôtel. Oui. Et ça, c'est superbe et c'est très bien fait. Bon, les couloirs de Roissy, on s'en lasse un peu plus.
Oui.
Hein, même si, évidemment, c'est porteur de symboles, c'est ces lieux où, finalement, les gens passent sans se voir. Quoi.
Voilà. Donc, il faut aller le revoir.
Oui, il faut aller le revoir.
Le voir et le revoir.
Non, mais je crois que, en tout cas, c'est un film qui a le mérite d'une grande originalité. Donc,
en vous méfiant du résultat.
Je pense que c'est... Enfin, il faut apprécier les réalisateurs qui prennent ce genre de risque, quoi. Parce que c'est quand même un risque de construire un film comme ça. Ce qui a demandé, d'ailleurs, en plus, un travail gigantesque pour construire ça.
Et puis un risque mûrement réfléchi, parce qu'elle a mis des années pour y arriver.
Absolument. Bon, nous allons nous interrompre pour une petite pause musicale. Non, pas de pause musicale.
Mais il n'est pas là.
Nous continuons. Nous continuons sur un film chinois, donc Black Coal. Alors Black Coal, c'est le dernier film de Diao Yinan et il a reçu l'Ours d'Or, la plus haute récompense au Festival de Berlin en février dernier. Diao Yinan est un jeune réalisateur, il a 45 ans et il appartient à ce que les spécialistes, je n'en fais pas partie, mais appellent la sixième génération du cinéma chinois. Donc les générations de cinéastes en Chine semblent se succéder presque aussi vite que celles des smartphones.
Black Hole est son troisième film. Il a réalisé son premier long métrage Uniform en 2003 et son second Train de nuit en 2007. Alors le titre français est en fait la suite de changements successifs, parce que le titre chinois veut dire feu d'artifice en plein jour, bon, qui d'ailleurs est enfin, c'est justifié par les images de la dernière scène. Le titre anglais sous lequel il a été présenté à Berlin est devenu Black Coal Thin Ice, donc charbon noir, glace mince, mais on a dû trouver que c'était encore trop compliqué en France et c'est devenu Black Coal tout seul. Alors c'est un film assez étonnant, un film policier à la fois très inspiré des grands classiques du film noir américain des années 40-50 et en même temps très ancré dans la réalité sociale de la Chine actuelle. Jean-Michel, tu en as pensé quoi ?
Alors, Black Coal, c'est vraiment noir comme le charbon. Diao Yinan adore le polar et cela sent. Il en distille toutes les facettes pour en faire le miroir de la Chine contemporaine. Dès le premier plan, l'attention du spectateur est captée par l'apparition fugace d'une main sur le tapis roulant d'une mine de charbon. On apprendra vite que les fragments de plusieurs corps disparus ont été dispersés de la même façon à travers l'ancienne Mandchourie. Deux flics mènent l'enquête, mais une interpellation malmenée se termine tragiquement et l'inspecteur Zhang, qui est le protagoniste héros de ce film, est renvoyé de la police. On le retrouve 5 ans plus tard, agent de sécurité dans une usine, apprenant aux ouvriers à se servir d'un extincteur et ayant sombré dans l'alcoolisme. Lorsque de nouveaux meurtres se produisent dans la région, il se rapproche de son ancien collègue qui lui confie que les soupçons se portent sur l'épouse de la première victime, femme à la personnalité mystérieuse employée dans une blanchisserie. Et son collègue prend sur lui de lui demander son aide pour résoudre cette énigme. Zhang va succomber au charme de la suspecte et l'énigme va s'épaissir et faire surgir plusieurs pistes qui peuvent peut-être embrouiller un peu le spectateur.
Mais alors c'est un film de genre, c'est une peinture sociale ou c'est un cinéma d'auteur ?
C'est peut-être un peu tout ça à la fois. C'est un film tourné à Harbin, cité industrielle de moyenne grandeur du nord de la Chine, dans une âpre atmosphère hivernale qui donne une caractéristique sensible au film, qui déploie une narration qui est celle du genre policier, avec les nombreuses références américaines que tu as citées, auxquelles un cinéaste cultivé peut faire appel. La Chine d'aujourd'hui, par ailleurs, violente et les yeux rivés sur le profit et l'écrin de cette histoire policière. Mais, troisième point, la manière de l'auteur est perceptible dans sa façon bien personnelle d'entrelacer réalité et rêve en multipliant les ellipses, une ellipse temporelle notamment pour parcourir les 5 années qui séparent les deux épisodes et qui est tout à fait extraordinaire au sein d'un tunnel lumineux, et des scènes parfois très violentes, volontairement non abouties, ou plutôt très concentrés, qui produisent un effet de sidération saisissant. De même, le couple improbable formé par le policier dévoyé, alcoolique et en manque d'amour, et la femme fatale qui l'attire, et ne lui dévoile que parcimonieusement son passé, renvoie à des mythes et des passions maudites, anciennes et confuses, qui devraient exciter délicieusement l'imaginaire de nombreux spectateurs.
Ah, mais là, tu nous mets l'eau à la bouche. Est-ce à dire que le film est une réussite totale ? Mérite-t-il son ours d'or ?
Il se respecte la décision du jury de Berlin, mais pour moi, paradoxalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tout au moins à la première vision. Je l'ai vu qu'une fois et j'étais un peu déçu de me sentir plus perplexe que fasciné après la surprise de la première demi-heure. En effet, si les trouvailles de mise en scène sont incontestables, dont certaines sont véritablement d'anthologie, un massacre imprévisible au cours d'une arrestation, une course-poursuite à patins à glace, dans une atmosphère de neige, et pour finir, un surréaliste feu d'artifice en plein jour, qui a donné le titre français, les moments où je me suis ennuyé sont trop nombreux pour que je n'attende pas de vous de m'éclairer sur ce que j'ai manqué dans un film qui est brillant, mais ne me captive pas sur la longueur comme ceux d'un Wong Kar-wai.
Alors Jean.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel et je pourrais pas lui donner de réponse vraiment à ses interrogations parce que j'ai eu les mêmes. Effectivement, il y a deux films dans un. Il y a le film noir qui m'a pas vraiment plu. Parce que on a trop vu de bon polar, on est trop imprégné du bon polar hollywoodien pour prendre les ficelles, parce que on les voit trop, ces ficelles, hein. Les fausses pistes, les scènes qui commencent et qui ne se terminent pas, qui comme ça, la femme fatale qui n'en est pas vraiment une. Donc, il s'est bien, c'est vrai qu'il s'est bien filmé et il a bien apprécié le saut, ça c'est clair. Et alors, il y a l'autre aspect qui est très propre à l'homme occidental, aux hommes occidentaux et aux femmes que nous sommes, c'est l'aspect de la vie en Chine. Et ça, effectivement, cette montée du capitalisme, cette misère, cette violence cachée, tout ça est très intéressant. Mais enfin, ça ne fait pas vraiment, vraiment un très grand film.
Alors, est-ce que ça fait un très grand film ? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a ce double aspect. Enfin, pour nous, il y a ce double aspect. Il y a cet aspect ancré dans la Chine d'aujourd'hui, hein, dans cette actualité, dans cette société qu'on voit d'ailleurs dans les films de beaucoup de réalisateurs chinois actuellement, une société très dure. Mais on voit aussi. Moi, j'ai trouvé que le film était aussi très intéressant, non seulement par les trouvailles de mise en scène que tu indiquais, mais aussi par les éclairages, parce que toute la deuxième partie se passe en hiver, donc dans la Chine du Nord, et donc essentiellement de nuit. Et chaque scène, en fait, est éclairée le plus souvent par des néons. Se passe dans la rue et éclairée par des néons de boutiques, de l'enseigne lumineuse, etc. Et donc, on a des tonalités qui sont complètement différentes et avec, finalement, un fond de sigles, de traits qui peuvent être jaunes, qui peuvent être verts, qui peuvent être rouges. Ça donne une atmosphère assez saisissante. Enfin, moi, j'ai bien aimé cet aspect-là.
Oui, c'est vrai que la dominante de couleurs est assez remarquable et un des attraits du film.
Oui, c'est vrai, mais on l'a déjà vu, ce machin-là. C'est pas vraiment une découverte.
À ce point-là, peut-être pas autant que ça.
Il y a des polars entre les années 45-50.
Oui, mais ils étaient en noir et blanc.
mais là, c'est tellement sombre que c'est quasiment en noir et blanc.
Ah oui, sauf que justement la couleur donne.
Oui.
Bon, il y a aussi quand même. Tu as parlé un peu rapidement de cette ellipse entre la première partie et la deuxième partie. C'est quand même une ellipse d'anthologie parce que on rentre dans un tunnel l'été dans une voiture et on en ressort cinq ans après l'hiver sur votre mobylette. C'est absolument stupéfiant.
Et la caméra tourne autour de la voiture.
Oui,
c'est bien, mais enfin, on va pas en parler toute la journée.
Non, c'est vrai, mais c'est quand même un beau morceau de cinéma quand on le voit, quoi.
On s'ennuie pas, hein. Faut pas non plus exagérer.
moi, j'ai pas vu le film. Comme tout le monde, on est un peu inquiet de cette Chine qui s'est éveillée puis qui bouge beaucoup et qui a une importance croissante dans le monde. Et j'avoue que les films chinois que j'ai vus m'ont ouvert sur une autre perspective. Et malgré ce que vous en avez dit, vous êtes un peu négatif. J'ai très envie de le voir parce que les films chinois que j'ai vus m'ont beaucoup intéressé.
Enfin, je pense qu'on est négatif. On est négatif par rapport au fait qu'il avait eu l'Ours d'Or à Berlin et donc on attendait un chef-d'œuvre. Ça reste un très bon film. Enfin, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Hein. Alors, effectivement, on peut dire il utilise bien les trucs, mais il le revendique lui-même. Il dit j'adore le film noir. J'ai fait un film noir.
C'est une critique à un haut niveau quand même.
Voilà, c'est une critique.
On n'est pas en train de deviner le film.
C'est vrai. Lui-même parle du Grand Sommeil. Hein,
exactement. Non, mais c'est un. Il cherche pas à cacher ses sources, si on peut dire. Donc, un film intéressant qui est quand même, sur le plan esthétique, très réussi à certains moments et qui aussi donne une certaine image de la Chine qui est intéressante. Bon, nous revenons dans nos bonnes terres françaises et nous voudrions passer quelques instants sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chavron. En général, vous avez constaté que dans cette émission, nous n'évoquons pas tellement ces films commerciaux en préférant attirer l'attention de nos auditeurs sur des films qui reçoivent moins de publicité. Mais il nous a semblé intéressant de passer quelques minutes à discuter les raisons qui peuvent expliquer justement cet énorme succès. Rappelons pour nos auditeurs qu'il n'est pas loin aujourd'hui, je crois, des 10 millions d'entrées. Et que dans les années récentes, seul Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables ont fait mieux, quoi. Donc, c'est vraiment la comédie qui a eu du succès cette année. Alors, à votre avis, Jean-Michel, là, qu'est-ce qui explique ce succès?
Jean,
je crois que tu as bien aimé.
Moi, j'ai bien aimé. J'en suis sorti très content. Alors, effectivement, après, on s'interroge sur le pourquoi de la chose, hein. Et donc, moi, je compare ce film à la fois à Intouchable et au match France-Suisse que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça à la télé. Parce que j'estime que les Français ont besoin de croire qu'ils sont meilleurs et qu'ils compatissent aux invalides, qu'ils ne sont pas racistes. Alors, ça leur fait plaisir On a l'impression que ça leur fait vraiment plaisir de voir ce film. D'ailleurs, on s'y amuse bien. Et je dois dire que c'est très agréable d'être dans une salle de cinéma pleine où tout le monde communie au même film et tout le monde rigole au même moment. Oui. Ça fait partie... C'est un grand moment de plaisir.
Il ne faut pas gâcher son plaisir.
Il ne faut pas gâcher son plaisir. Et c'est un grand moment de plaisir.
Jean-Michel.
Oui, oui. Alors, c'est grand, je ne sais pas. Mais enfin, c'est un moment de plaisir. On rit à plusieurs reprises. Moi-même, j'y allais un petit peu à reculons en me demandant si j'allais pas sortir au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure. J'ai failli le faire sur un épisode du film qui m'a paru encore plus gros que les grosses ficelles qui prévalent du début jusqu'à la fin. Mais malgré tout, il faut pas bouder un certain plaisir de rire et de rire avec les autres, comme l'a dit Jean. Donc, c'est un film de divertissement. Il faut pas lui demander plus que ce qu'il promet. Il est joué de façon amusante. C'est une caricature, puisqu'évidemment, il y a un cas de figure absolument emblématique avec la multiplicité des couleurs et des ethnies, des genres. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est un film qui va beaucoup plaire et continuer à plaire. Il faut que nous en parlions.
Oui, absolument. Je crois qu'il... Alors, d'abord, il faut dire que c'est un film qui est très bien fait sur le plan de la comédie. Mmh. Bon, il utilise toutes les procédés classiques du cinéma comique, du comique de situation, du comique de mots, mais il l'utilise bien, c'est-à-dire que c'est efficace et il n'y a pas de temps mort, quoi. Et puis, je pense que la... Alors, il joue aussi, alors ça, c'est le thème de la différence, des incompatibles, des héros que tout oppose et qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Bah, c'est le thème traditionnel non pas uniquement des ch'tis ou des intouchables, mais même des comédies de Howard Hawks, le professeur, le professeur austère et la jeune
cerveau. Howard Hawks, c'est peut-être un peu osé.
Je savais que j'allais provoquer Jean-Michel en disant ça, mais simplement, les ressorts, ce que je voulais dire, c'est que les ressorts du comique se retrouvent à ces deux incompatibles c'est plusieurs incompatibles qui finalement tombent dans les bras l'un d'autre à la fin. C'est du grand classique du film comique.
Oui, juste une phrase, Tatiana exprime son avis, bien sûr. C'est que il y a quand même dans ce film une façon tellement caricaturale qu'il ne faut pas le prendre au premier degré et qu'une critique vertueuse que j'ai pu lire à droite ou à gauche disant que c'était scandaleux de flatter le français en lui caressant le poil de cette façon-là est un petit peu déplacé.
Oui, tout à fait, oui. Tatiana.
Donc j'avoue encore, je n'ai pas vu le film, mais je suis toujours très curieuse des raisons qui entraînent autant de spectateurs à aller voir quelque chose dont le sujet, après tout, n'est pas tellement réjouissant. Alors donc, j'irai voir ce film.
Ouais, à mon avis, il faut le placer vraiment dans son contexte politique actuel de morosité profonde. Et donc, les gens sont vraiment contents de rigoler un coup.
Oui, et d'ailleurs, à ce point de vue, il y a un certain nombre de petites choses qui sont aussi, enfin, qui vont dans ce sens-là. Le fait de choisir le notaire de province catholique et gaulliste nous renvoie en fait à la période des 30 glorieuses, des années 60-70, qui sont vues par beaucoup aujourd'hui comme une sorte de paradis, quoi. Hein. Et c'est d'ailleurs, sur le plan cinéma, c'est aussi l'époque des De Funès, quoi.
Oui.
Et puis, je crois qu'il y a aussi une utilité, enfin, la façon aussi dont il joue sur les réflexes identitaires est assez astucieuse. C'est-à-dire que, bon, évidemment, les choses les plus dures sont gommées, on reste un peu au folklore, mais il joue aussi sur des choses assez astucieuses qui est finalement de l'ambiguïté des situations. C'est-à-dire qu'en particulier, les gendres vont parfois surjouer leur personnage, c'est-à-dire en fait faire des blagues et ils savent même plus très bien si c'est de la vraie colère ou de la fausse colère. Ça, c'est assez astucieux parce qu'on peut s'identifier à ce genre de choses.
Oui.
On a aimé.
Bien. Allez. Bon, alors maintenant, nous passons au coup de cœur et nous commençons par Ugly, que Jean
Oui.
Tu peux nous présenter.
Alors, on vient de parler de Black Hole, qui était un polar chinois qui se passait dans le froid. Maintenant, on va parler d'un polar indien qui se passe dans le chaud, à Bombay. Mais il y a assez de similitudes, finalement, j'ai trouvé entre ces deux films. Parce que on retrouve un certain nombre de points communs, en particulier sur le plan scénaristique. Il y a de nombreuses fausses pistes, le scénario est compliqué à loisir, les personnages ne sont complètement difficiles à cerner. Sur le plan cinématographique, les prises de vue sont énergiques et convaincantes. Donc ça c'est un peu ce qui ressemble à l'autre. Alors l'intrigue est complètement différente, hein, puisque ici c'est on a affaire à des parents d'une petite fille qui s'appelle Kali, de 10 ans, qui sont divorcés. Et la fille vit avec sa mère et son beau-père, Shumik, responsable d'une brigade de la police de Bombay. Un samedi, alors que Kali passe la journée avec son père, Rahul, elle disparaît. Et nous allons suivre l'enquête compliquée par l'implication des proches parents de la famille qui vont chercher à tirer profit de cet enlèvement. Alors, comme dans l'autre film, ici, la spécificité ici indienne est ultra présente. La vie grouillante de la mégapole indienne, avec ses misères et ses trafics en tout genre, la condition féminine détestable en Inde, dénoncée avec force. L'intensité du propos nous fait oublier les quelques invraisemblances du scénario, et nous restons accrochés à l'action et à être plongés dans le monde sans pitié et ultra violent d'une grande ville indienne. N'oublions pas que le film s'appelle Ugly, laid en anglais, et qu'il veut montrer la laideur morale, la corruption et le vice qui gangrènent la vie à Bombay, ainsi que les cris Anugar Kashyap, le réalisateur.
Merci Jean, donc pour ce film original. Les deux autres coups de cœur sont, pour une fois, des documentaires, et plus précisément des documentaires politiques. Alors, Tatiana, tu veux nous parler de Caricaturiste fantassin de la démocratie.
Oui, il faut voir ce film absolument, même si ça va être difficile parce qu'il passe dans très très peu de salles, mais il va durer longtemps, donc scrutez vos programmes et allez le voir dès que vous en avez l'opportunité. Il a été présenté en séance spéciale au dernier festival de Cannes. Il est dû à l'initiative du dessinateur Plantu, reprise par le réalisateur Radu Mihaileanu, le réalisateur du concert, qui a produit le film. Ainsi qu'à la solidarité de tous les caricaturistes qui s'étaient retrouvés à New York à l'ONU sous l'égide de Kofi Annan. Tourné aux quatre coins du monde, il rassemble 12 hommes et femmes venus de tous horizons. On y trouve un Français, une Tunisienne, un Russe, un Mexicain, un Américain, un Burkinabé, un Chinois, un Algérien, un Ivoirien, une Vénézuélienne, un Israélien et un Palestinien. Tous dessinent la réalité de leur monde et de leur pays. En France, aux États-Unis, le risque encouru est au pire un procès, une reculade de la rédaction qui refuse un dessin, ou des coups de téléphone injurieux, comme lorsqu'on fait volter, quand on ose faire volter des mouches autour de la tête d'un président. Ailleurs, pour beaucoup, le prix de la liberté d'expression, c'est une clandestinité étouffante. Plus grave encore, d'autres choisissent de s'exprimer au péril de leur vie. On connaît le Danois Kurt Westergaard, sous le coup d'une fatwa à perpétuité pour ses dessins sur Mahomet. Ou bien Ali Farzat, le dessinateur syrien tabassé par les sbires du régime, les mains écrasées pour le faire cesser de dessiner, et qui, de son lit d'hôpital couvert de pansements, rigole parce qu'il leur a fait peur avec un crayon. L'association créée par Plantu, Cartooning for Peace, a du pain sur la planche. Elle défend plus de 101 dessinateurs dans le monde. Pourquoi continue-t-il ? Interviewé à Cannes, Radu Mihaileanu et la réalisatrice Stéphanie Valoato disent: le danger serait qu'on se taise, ce serait se déclarer vaincu. La maladie qui nous pousse vers la dictature, c'est la peur. Alors pourquoi le dessin et pas le journalisme, qui informe de la façon la plus neutre qui soit? Parce que, rajoute Radu Mihaileanu, le dessin de presse, ce n'est pas juste de l'information, c'est un avertissement. Ces dessinateurs de presse, tels qu'ils apparaissent dans le film, ce ne sont pas juste des humoristes comme certains le pensent. Ce sont des hommes et des femmes engagés, des soldats, les fantassins de la démocratie, comme l'affirme le titre. Et pourquoi se battre au moyen du rire ? Radu Mihaileanu et Stéphanie Valoato, décidément j'ai du mal avec leurs deux noms, expliquent « Combattre et résister, c'est se marrer. C'est jubilatoire de défendre la démocratie. »
Effectivement, un film intéressant, je l'ai vu à Cannes. Alors Jean-Michel, tu nous parles de Maïdan ?
Oui. Rapidement, c'est une grande nouvelle et j'en remets une couche. Cannes s'ouvre au réel et la moitié des 10 séances spéciales de la sélection officielle 2014 concernaient des documentaires, parmi eux Maïdan. En ukrainien, Maïdan signifie place. À Kiev, c'est pour tous la place de l'Indépendance, bordée de grands immeubles de style soviétique et centrée par une colonne surmontée d'un ange multicolore. Le grand documentariste Sergueï Lonitsa, qui a fait Mon Bonheur, qui a fait Dans la brume, sélectionné à Cannes en 2010 et 2012, a planté sa caméra de jour comme de nuit sur cette place, où cet hiver, dès novembre 2013, s'est écrit l'histoire de la révolution ukrainienne en marche et d'une renaissance de la conscience nationale de ce pays, comme en témoigne aussi dans son journal de Maïdan le conteur ukrainien Andrei Kokrov. C'est là que des citoyens de tous âges et de toutes confessions se sont rassemblés pour protester contre le régime corrompu du président Yanukovych, qui sera contraint à la démission fin mars. Devant ce film, on se prend à rêver. Et si une caméra avait saisi les premiers soubresauts de la grande révolution française devant la forteresse de la Bastille ou le château de Versailles? Ici, les foules immenses, révoltées, exaltées ou recueillies, dont la dynamique n'est pas sans évoquer parfois les reconstitutions historiques d'Eisenstein, font alterner l'hymne national ponctué de « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros », avec des chants religieux qui expriment une foi orthodoxe profonde et accompagnent notamment la grandiose scène d'hommage aux deux premiers tués de la répression sanglante qui clôt le film. Ce documentaire passionnant fait palpiter la vie et rend sensible la détermination, la force tranquille et la solidarité d'un peuple qui lutte pour sa dignité.
Merci Jean-Michel pour ce beau film. Je crois qu'est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Tatiana, Jean et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt.